France Culture.
C'est Floc Nicolas, je suis né sur Brest, dans le Finistère. Je suis né à l'hôpital de Kérodrin. Et en fin de compte, j'ai fait la une des journaux. Alors que la planète faisait dignement le passage en l'an 2000, le petit Nicolas a été ponctuel au rendez-vous. Le bébé est né à minuit pile à Brest. Son arrivée, prévue vers le 18 janvier, a quelque peu changé les projets de ses heureux parents. La maman et l'enfant se portent à merveille et abordent avec le sourire l'an nouveau. À cette famille comblée, à tous ses lecteurs, le Télégramme présente ses meilleurs vœux pour l'an 2000.
Les enfants du nouveau millénaire, épisode 1. Agathe, Inès, Loana et tous les autres.
Pendant longtemps, j'avais un peu le seum d'être née au 21e siècle. Je trouvais que c'était un peu la loose. Moi, je voulais trop naître en 70 parce que je voulais avoir 10 ans en 80, 20 ans en 90 et 30 ans en 2000. Je trouvais que c'était les plus belles époques. Je trouvais que ça me ressemblait plus. Et en fait, plus je grandis, et j'ai l'impression que c'est beaucoup post-Covid que j'ai eu cette réflexion-là. En fait, j'ai trop de chance. Je trouve qu'on est la meilleure génération. La Gen Z, c'est la meilleure, je trouve, parce que on est hyper mature, on est hyper conscient, on est hyper déconstruit. On est hyper tolérant aussi, on est hyper bienveillant. Nous, on parle de tout à ma génération. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, dans mon milieu à moi, et dans un peu plus que mon milieu, dans ce que je vois autour de moi quand je vais dans des endroits où c'est pas du tout mon milieu, mais que c'est des gens de mon âge, en fait, on parle de tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Et puis si c'est pas ok d'en parler, on le dit, c'est pas ok. Ok, pas de soucis. J'aime trop vivre à mon époque parce que... En fait, à la fois, j'ai une vision un peu apocalyptique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est foutu, quoi. Enfin, c'est mort pour nous. Nous, on va nous laisser crever la gueule ouverte. Enfin, c'est fini, quoi. C'est fini. C'est mort. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on vit à la fois le début et la fin de quelque chose. En vrai, c'est cool. Cette génération-là, elle est pleine d'espoir parce que on va faire de grandes choses avec ce qu'on nous a imposé. C'est ce que je pense. En fait, on s'approprie un truc qu'on nous impose.
À l'occasion de la fin de ce premier quart de siècle, nous donnons la parole aux personnes nées dans les années 2000. Entre le bug informatique, l'attentat des tours du World Trade Center et l'instauration des 35 heures. Bienvenue dans la génération Z, la Gen Z en anglais. C'est la première génération à avoir grandi avec Internet. Alors, on les désigne parfois aussi sous le terme de Digital Natives.
Digital Natives, je suis un peu Digital Natives.
Cette classe d'âge ne laisse personne indifférent. Le marketing, bien sûr, mais aussi les générations précédentes. Et même les premiers concernés, qui, en intégrant les discours à leur sujet, véhiculent parfois des stéréotypes. Les jeunes seraient inspirants, engagés, plus libres ou au contraire fainéants, wokistes, individualistes. Comment ne pas comprendre l'espoir que l'on fonde dans la jeunesse? Mais on peut aussi saisir la défiance, voire la jalousie qu'elle suscite. Ces discours manichéens gomment les disparités qui existent au sein même de cette catégorie. Comment perçoivent-ils le numérique, l'amour, la famille ou encore le travail? Et comment se projettent-ils dans un futur toujours plus incertain? Cette série explore la diversité des parcours au sein d'une génération souvent vue comme homogène. Andrea et ses colocataires, la bande d'Iliès, Daina, Nicolas et sa famille, Louve ou encore Agathe et Sofiane. Ils vivent en ville, à la campagne, dans une banlieue populaire ou cossue, en couple, en colocation ou chez leurs parents. Ils jonglent entre études, travail, recherche d'emploi et parfois les trois à la fois. Des vies qui ressemblent aux vies de la plupart des jeunes. Nous les suivons dans leur quotidien, au bar, dans leur chambre, en soirée, ou autour de la table familiale. À quoi rêve-t-on quand on a la vingtaine aujourd'hui? Quels sont leurs doutes, leurs espoirs, leurs désillusions? Et que reste-t-il des promesses portées à l'aube du XXIe siècle? Spoiler, ce n'est pas toujours ce que les générations précédentes imaginent. Nous plongeons dans l'intimité de cette génération, aidés de chercheurs et chercheuses, pour mieux comprendre leur rapport aux autres et au monde.
Rafik Zénine. Né en 1961. Cette année-là, Youri Gagarine est le premier homme à aller dans l'espace. C'est le putsch des généraux à Alger et le début de la construction du mur de Berlin. C'est aussi l'année de naissance de Mylène Farmer, Manu Chao, Cédric Clapiche, Pierre Hermé et Nicolas Dupont-Aignan et Elisabeth Borne. Léa Capuano a un prénom des années 2000, mais elle est née en 1990. En France, cette année-là, François Mitterrand est président. L'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. L'ONU crée la notion de couloir humanitaire afin d'accéder aux populations en souffrance. Les troupes irakiennes de Saddam Hussein envahissent le Koweït. Jacques Demy meurt du sida.
Nous, c'est Rafik, et moi, Léa. Celui qui vient de parler, c'est Daniel. Vous l'avez peut-être reconnu. C'est la voix française de Maître Yoda dans Star Wars. Nous faisons cette série pour ne pas oublier ce que c'était d'avoir la vingtaine en 2025. Mais aussi pour mieux se comprendre. Parce que parfois, on vit à la même époque, mais on ne se connaît pas.
Dis-moi, ça sera beau l'an 2000 ?
Oui, oui.
T'es content, toi, de vivre l'an 2000 ?
Oui.
Tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans l'an 2000.
Oui, c'est ça. Hein ?
Comment ça va être ?
Tu auras changé déjà.
L'an 2000, c'est irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain. Qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. J'ai peur de devenir vieille.
Ça sera pas beau ?
Non, non.
Pourquoi ça sera pas beau ?
Il y aura des maisons partout.
Et le coin de verdure, tu en vois des coins de verdure quand même ?
Non. Je vois des immeubles en plastique. Avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance.
Dis-moi, tu vois un véhicule pour l'avenir ?
Oui, une espèce de petite sphère avec une bille à la base qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout.
Qu'est-ce que tu vois comme carburant ?
Du carburant, un gaz qu'on trouvera sur la Lune.
Si la technique n'assagit pas les hommes et va dans le sens de la violence, il est certain que les guerres prendront de plus en plus d'ampleur.
Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir ?
Eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront peut-être pas contenir tout ce qu'ils trouveront.
Archivina, 1962. Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication.
Alors, quand on évoque la génération Z, on évoque généralement les enfants, adolescents qui sont nés dans les années fin 90-2000, une génération qui serait finalement caractérisée par le fait d'être née, entre guillemets, en même temps qu'Internet.
Donc, c'est plus vraiment des adolescents s'ils sont nés fin 90-2000.
Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne sont plus des adolescents en tant que tels. Leur adolescence a été marquée, en fait, par les discours autour de cette génération Z ou Digital Natives. Mais ils ont évidemment évolué ensuite, grandi, mûri. Et ce qui est intéressant, c'est justement de mettre en perspective ce qu'ils et elles sont devenus. Alors, l'expression de génération Z, en fait, c'est une expression qui relève du marketing, en fait, hein, qui caractérise les générations par des lettres. Vous avez la génération Y, la génération Z, pour désigner en fait des dizaines de naissances. De façon plus précise, cette génération, on l'appelle aussi la génération des Digital Natives. Et là, on a vraiment une date précise, hein, qui est 1996. C'est un militant libertarien qui s'appelle John Perry Barlow et qui va, dans une déclaration d'indépendance du cyberespace, évoquer les Digital Natives en disant aux parents « Vous êtes terrifiés par vos propres enfants parce qu'ils sont natifs dans un monde où vous serez toujours, vous, des immigrants. » Alors, le problème de ce terme de génération Z ou de digital native, c'est que finalement, c'est un terme qui va masquer une très grande complexité, mais aussi une très grande richesse sociale. En réalité, il y a des fractures intragénérationnelles qui sont importantes. On peut penser à des fractures d'accès, déjà. Toutes les personnes qui relèvent de cette génération n'ont pas le même équipement technologique. On a aussi des fractures d'usage. Toutes les personnes relevant de cette génération n'ont pas les mêmes connaissances, ne savent pas forcément ce que c'est qu'un réseau social, ne savent pas nécessairement aussi comment fonctionne un réseau, ou ont aussi des compétences informatiques qui sont très différentes les unes des autres. Par exemple, ce qu'on constate très souvent, c'est finalement une confusion entre l'appétence et l'expertise. De fait, ce sont souvent des personnes qui apprécient, et je dis souvent, pas toujours, Ce sont souvent des personnes qui apprécient les objets connectés, le numérique, les réseaux sociaux numériques, etc. Mais pour autant, les apprécier ne signifie pas être expert, être compétent dessus.
C'est pour ça que l'on a choisi de les appeler les enfants du nouveau millénaire. Nous commençons par rencontrer Andrea. Elle est DJ et on la retrouve en bas de chez elle. Elle vit en colocation à Corentin-Cariou, un quartier du nord-est parisien, populaire et multiculturel, héritier des abattoirs de la Villette. Le coin a tendance à se gentrifier, mais le logement reste encore accessible. Enfin, un célèbre site de location d'appartements annonce les prix. 8 biens sont proposés. De 1 800 à plus de 3 000 euros pour un 4 pièces.
Sous l'œil de l'agent de police, deux ombres dans l'ombre se glissent. La porte s'entrouvre et d'un bond s'échappe un air d'accordéon. On danse la Villette, quand Paris s'est endormi. Au fond d'un bar, le Musette, où tous les volets sont mis. Derrière, on n'y accepte que les amis des amis. On danse à la Villette, chaque soir après minuit. Viens, ma gigolette, oublions nos ennuis. L'endroit n'est pas très respectable. Pas beaucoup de fleurs sur les tables. Mais on n'a pas besoin de mieux, en valsant les yeux dans les yeux.
Damia, on danse à la Villette.
Eh bien, nous sommes chez moi. Chez moi, c'est trop bien à dire. Je donne pas mon adresse, non ? Ah non. Et du coup, j'ai emménagé ici il y a 3 semaines. Du coup, je vis avec Loua et Elisa, qui sont deux trop trop belles personnes depuis 3 semaines, donc c'est chouette. Et c'est un appartement. En fait, j'ai trop flashé dessus et c'est exactement, en plus, enfin, dans l'emplacement où c'est dans Paris, c'était exactement là que je voulais aller. Et puis, je sais pas, il y avait un truc qui se dégageait trop de douceur dans cet appart, même si du coup, on n'a pas de canapé pour l'instant. Attention, ça arrive, mais pour l'instant, on n'a pas trop de canapé, puisque ça a été beaucoup aussi des gens qui sont partis, qui ont ramené leurs affaires, etc. On a une voisine qui a déménagé, ou en tout cas qui est morte, enfin, j'en sais rien. Mais il y avait toutes ses affaires en bas dans le hall, et on a récupéré tellement de... Genre les assiettes, les petits vases, on a récupéré une grosse casserole, des verres et tout. Donc, c'est cool. Ouais, on a un super poster Misandre, okay, genre, avec plein de lignes, où il y a écrit Misandre, 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 qui est le poster de Loua, je crois. Il y a le café qui brûle, j'arrive. On a des petites cartes trop mignonnes qui viennent de chez Violette & Co, qui est une librairie queer et féministe. On a mon super poster sur la réforme des retraites, qui je trouve est hilarant, qui est une petite satire d'Elisabeth Borne, que je trouve trop marrant. Donc là, genre, je suis obligée de genre... re-spatialiser toutes mes possessions matérielles en mode comment je fais pour que tout rentre dans ma mini chambre et genre qu'est-ce que je mets dans le salon et que du coup les autres colocs vont voir ou pas. C'est pas la chambre de mes rêves pour l'instant, mais je trouve qu'elle a un très gros potentiel à devenir une très chouette chambre, mais je trouve que ça fait très chambre d'ado et ça me fait rire parce que comme j'ai habité seule pas mal de temps, en fait c'est que des affaires qui avaient éparpillé dans tout un appart. Pour l'instant, je trouve que ça ressemble vraiment à une chambre d'ado, genre mal rangée. Alors que je promets que, en plus, là, c'est vraiment particulier. Genre, je suis pas trop comme ça de base, mais là, c'est un peu trop. Mais surtout, il y a pas trop belle vue. Alors ça, je m'en remets pas. Tu veux peut-être, je ferme. Non, j'ouvre. Ok, ça roule. Ouais, trop belle vue. On voit. En fait, on est en face du parc de la Villette, donc on a vraiment, genre, je suis à 45 secondes de la cité des sciences et de l'industrie. Et moi, ce que je trouve... Enfin, moi, le truc qui me touchait le plus quand j'ai visité et tout, c'est surtout que bah, moi, je vais beaucoup en boîte de nuit et genre, vraiment, je suis au milieu de plein de lieux de fêtes nocturnes à Paris. Genre, en face, il y a la Folie, là-bas, il y a le Cabaret Sauvage. À côté, là-bas, il y a le Glazard. Un peu plus loin, à Aubervilliers, il y a la Station. Enfin, il y a vraiment genre tellement d'endroits que j'aime fréquenter. Et surtout, on voit la cité de la musique. Et ça me ravit.
Une coloc qui fait penser à toutes les colocs. Avec certes pas de canapé entier, mais un angle de canapé un peu usé, récupéré on ne sait où. Une grande table pour refaire le monde en fumant des roulés. Quelques tasses qui traînent, une ardoise où les comptes sont affichés. On pourrait être en 2007 comme en 1986. D'autant plus que le style des filles, Y2K, je traduis des années 2000, trouble la temporalité. On a tout à coup de nouveau 20 ans, et ce souvenir a le parfum de la nostalgie.
Je m'appelle Andrea et je suis née le 20 août 2001 à Strasbourg.
Et c'est sa musique que l'on entend. Elle la compose sous le nom de Mariade.
Si je dis pas de bêtises, mes parents, enfin ma mère je crois, aimaient bien une chanson de Bobby Lapointe qui s'appelle Andrea la plus belle, un truc comme ça. Et ils cherchaient un prénom et ils ont écouté la chanson, ils se sont dit « Ah purée, ça pourrait être... c'est pas mal ». Et il se trouve que mon arrière-grand-mère s'appelait André et du coup ils se sont dit « Ah c'est chouette, c'est un hommage en plus ». Je suis rousse, avec des yeux bleus, et je mesure 1m73. J'ai des chaussettes en moumoute avec des cœurs, parce qu'elles sont confortables. J'ai un pantalon, je sais pas la matière, un peu genre maillot de bain. J'ai un t-shirt de la radio où je suis résidente, qui s'appelle Rains France. Et en dessous, j'ai un t-shirt à manches longues vert. C'est hyper bizarre de dire que je suis DJ, parce que c'est, pendant longtemps c'était quand même juste ma passion, et maintenant c'est évidemment un peu plus que ça vu que je gagne de l'argent avec, donc il faut que je m'habitue à dire que c'est un peu mon métier, mais ça fait trop bizarre. Et du coup oui, je suis DJ, et ça fait 2 ans qu'en gros je mixe. J'ai commencé de manière super amateur, vraiment à mixer pour des soirées, pour des amis et tout. Et au final ça a pris de l'ampleur, et maintenant du coup je suis vraiment genre... DJ, j'ai genre une carrière et tout, donc c'est trop bien. Je mixe ce qu'on appelle de la basse musique, du break, beaucoup de dancehall aussi. Moi j'ai toujours écouté de la musique électronique et j'ai grandi à La Réunion, du coup j'écoute beaucoup de dancehall, de chata, de bouillon, même si ces deux genres-là viennent de Martinique, enfin en tout cas des Caraïbes, de Gomance qui est un style de musique réunionnais aussi. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA, loca. All right then, just one touch of me give the little miss and she start to go loopy. Me tell her I'm loving her, miss Sandy right back home. Taking her room like she feel man a drug. She fall in love with the way how I do it. And I must love the way how she just can't leave me alone. Because she a pick up the phone. She not stop call Simone. And I tell her she moan and groan at the zone. Think me a clone, then me give her the bone. Now she have to turn round, get me the crown. You see? Ooh, baby girl. And see my mirror and see my toyo.
C'est une génération qui se caractérise, comme toutes les générations en fait, hein, par des pratiques culturelles qui peuvent être partagées. C'est les choix musicaux, c'est les choix vestimentaires par exemple. C'est aussi une génération qui va se caractériser par des processus d'entre-soi. On a besoin de se reconnaître les uns les autres à travers des manières de s'exprimer, des manières de penser, voire de revendiquer les choses. Et c'est sûr que, évidemment, pour cette génération, et je pense celles qui vont suivre, en fait, le numérique est évidemment un moyen d'expression, de socialisation et de caractérisation, d'une certaine manière, de la génération.
J'utilise beaucoup Instagram. En vrai, Instagram, j'utilise vraiment de manière professionnelle, entre guillemets. Enfin, c'est plus pour la musique, vraiment. Communiquer sur les dates que j'ai, juste faire du lien avec d'autres artistes, s'échanger de la musique. J'ai genre des profils un peu cachés, enfin tu sais, genre 2-3 profils privés pour. tu rigoles. J'ai genre, tu vois, genre un profil Insta pour mes 10 amis proches, où là je mets plus des trucs de la vie de tous les jours, enfin quand j'ai le temps ou quand j'y pense. Ça s'appelle un Finsta, j'ai appris ça récemment. Et après, sinon, j'ai Facebook, mais Facebook, c'est pour ma famille, plutôt. J'ai vraiment très peu d'amis de ma tranche d'âge ou de ma vie d'adulte. Comme les événements où je mixe, ils sont aussi partagés sur Facebook, je les mets sur Facebook, pour ma famille. Comme ça, je suis genre, hey, j'ai fait ça, regardez. Mais c'est vraiment, il y a mes tontons, mes tatas.
Et après, sinon, je crois que j'ai pas d'autres réseaux sociaux. J'avais TikTok, mais j'étais vraiment genre beaucoup trop à fond. Beaucoup trop. Je passais, c'était super chronophage. Et comme vraiment, je passais beaucoup trop. Enfin, moi, j'étais vraiment le profil classique friande de vidéos. Je peux passer des heures à regarder des trucs débiles. Mais il n'y a même pas que des trucs débiles, en plus il y a des trucs super intéressants, je trouve. Et particulièrement du contenu musical sur TikTok, il y en a énormément. Et moi ça me passionnait, genre des mecs qui passent des vidéos entières à t'expliquer des vinyles, t'expliquer d'où vient ce sample et tout. Moi je pouvais manger ça genre toute la journée. Genre là j'avais 2 ans d'algorithme. J'avais travaillé mon truc, je savais exactement ce que je voulais voir et du coup je savais aller où chercher mes trucs.
Tu as combien de followers sur ton Insta plus officiel ?
Je crois qu'on est à 4500, je crois. 4246. Et je suis 1600 personnes. Je me suis dit la dernière fois que c'était énormément de gens. Do you say you're back in my day when you talk to someone useful? Do you moan all day at the news instead of doing something useful? Do you treat all service workers like they're nothing but your slaves? Are you further from your birth than you are closer to your grave? Boom. Okay, boom. You're a boomer, okay boomer. Book, good, phone, bed. When I was 25 I had a wife, was a dad. We worked 12 hours just to pay the bills. You'll just watch Netflix and chill. Can't use a drill, take too many pills. Think the sea level's rising, you use vaccines. Wi-Fi, what's that? I got a Wi-Fi. Hey, I'd beat my kids if they stared at screens. Boomer, okay boomer. You're a boomer, okay boomer. Actually, I need your help. I got a strange wart in a weird place. Look, took a picture on my phone to show to the doc, and I somehow posted it on Facebook. Boomer, okay, boomer. You're a boomer. Okay, boomer. You're a boomer. Okay, boomer. You're a boomer. Okay, boomer.
Alors, la fracture générationnelle, elle est quelque part présente parce que sociologiquement, il y a toujours des fractures entre les générations. C'est ce qui permet de distinguer les générations. Le fait de penser différemment des éléments, le fait de voir autrement peut-être le monde du travail, l'évolution de la planète, les systèmes politiques. Donc, de fait, il y a toujours des fractures. Pour autant, avec le numérique, cette fracture, c'est plutôt une fracture de représentation qu'on va avoir avec des espaces aussi investis différemment. De façon assez évidente, les réseaux sociaux numériques, notamment pour s'informer, sont très investis par la population née dans les années 2000 et ensuite, au regard de l'autre population, où on va avoir un accès une utilisation en tout cas moins prégnante, moins importante. On a donc des éléments de différenciation entre les générations. Mais le problème qu'on a avec ce terme de génération Z, c'est qu'on a vraiment cette tendance à penser que ils sont nés dedans, comme on dit souvent, et donc ils savent. Ils savent faire, ils aiment faire. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. De la même manière qu'on présente beaucoup les seniors, et là aussi, qu'appelle-t-on un senior ? C'est exactement le même problème que qu'appelle-t-on un jeune. Les seniors sont souvent présentés comme étant des personnes qui seraient en rupture, en fait, pas connectées, etc. En réalité, ça apparaît en partie faux, et notamment parce que, là encore, les seniors, c'est une globalisation beaucoup trop importante pour pouvoir homogénéiser les individus à l'intérieur. Ce qui est certain, c'est que voir la jeunesse d'aujourd'hui, entre guillemets, comme moins intelligente, moins curieuse, moins adepte des liens sociaux, ça c'est quand même un discours qui est marqué sur le plan anthropologique. C'est-à-dire que, quelles que soient les époques, en fait, c'est un discours qui est récurrent. On a des textes dans l'Antiquité hein, qui nous disent combien la jeunesse est perdue. Donc c'est vous dire en fait à quel point c'est un discours qui circule et revient finalement de façon assez permanente dans une société. Alors, il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui effectue un lien entre une prétendue baisse de niveau intellectuel de la jeunesse et l'utilisation du numérique. Plus clairement encore, aucune étude ne dit, ne prouve scientifiquement qu'il y aurait une baisse d'intelligence, en fait. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt une méconnaissance et une forme de fantasme autour des pratiques numériques qui conduisent souvent les plus âgés, on va dire, à dénigrer ou à stigmatiser en fait la jeunesse dont les comportements échappent en fait à la compréhension des plus âgés. En fait, c'est très bourdieusien quelque part. Enfin, c'est-à-dire que Pierre Bourdieu avait écrit un texte dans les années 80 qui était lumineux, qui s'appelait « La jeunesse n'est qu'un mot ». Et dans ce texte, il rappelle combien le fait de ramener quelqu'un à son âge, il faut que jeunesse se passe, etc., c'était en fait une façon d'introduire un pouvoir, en fait, une sorte d'ordre de domination sur cette personne dite jeune.
C'est que tes petits émojis sont super drôles.
C'est-à-dire?
En fait, parce que je fais tes émojis avec les points, avec les points et tout, et c'est super drôle parce que je vois en fait ce que tu veux dire, mais j'avais jamais imaginé les faire comme ça.
Est-ce que tu peux décrire quels sont mes émojis, s'il te plaît?
Bah quand on met les deux points d'entrée pour prononcer quelque chose, avec un petit tiré d'union et la petite parenthèse pour sourire, voilà, classique. Ça c'est quoi?
Je me suis trompée, j'ai marqué oups.
Et vu que nous, bah, on a l'habitude des émojis, bah, tout fait.
Qu'est-ce que t'es en train de dire là, Aïna?
Ben non, mais je dis rien, je dis juste que c'est original, parce que c'est pas notre manière à nous de faire des émojis.
Un jour, j'ai envoyé deux points tirés parenthèses à ma mère, et ma mère m'a dit, mais c'est quoi deux points tirés parenthèses? Maman, c'est les deux yeux, le nez et la bouche. Non, ça t'évoque pas
bah
ça?
Bah si, si, du coup. Mais du coup, c'est drôle de le voir comme ça. C'est drôle. On voit un peu la différence entre les émojis.
Nous voici à Créteil. Aïna me donne rendez-vous au lac. Elle dit, c'est l'endroit où tu marches quand tu veux être avec tes pensées et t'éblouir les yeux. Tu viens t'asseoir devant le lac, tu te poses et ça te fait du bien. C'est comme si on était à la mer, mais devant le lac. Au loin, les HLM attendent les travaux d'isolation. Avec Aïna, on s'est rencontrés à la fac de Villetaneuse, où j'intervenais pour animer un atelier radio. Elle était une des étudiantes. Quand on échange, elle m'écrit des messages bien rédigés qui révèlent une personnalité studieuse, une envie de bien faire et une forme de délicatesse à mon égard. Les smileys, ou plutôt les emojis, qui ponctuent ces phrases augmentent la compréhension entre nous. Enfin, me semble-t-il. Quand je lui envoie un texto, je peux lire « Les notifications d'Aïna sont désactivées. » Elle essaye de déconnecter. Avec ses amis, Sarah, Mariam et Safia, elles forment une petite bande depuis plusieurs années. Elles se connaissent depuis l'enfance. Un sentiment de tendresse et de proximité à l'égard de ces filles, de leurs rêves, de leurs relations m'envahit. Avant d'aller chez l'une d'entre elles, on file au centre commercial Créteil-Soleil, où c'est moins cher qu'à la supérette du coin. Elles y choisissent du jus PCF, pommes cassis framboise, des madeleines au chocolat et des chips ondulées à la paysanne. Sarah se fait railler car elle a amené du jus de pamplemousse. Et ce n'est visiblement pas habituel. Elle s'excuse en rigolant, elle n'avait pas ses lunettes. Sarah, c'est elle.
Alors moi, j'ai plein de photos quand même, j'ai des stories à la une, j'ai des photos. Là en ce moment, je suis grave dans les dumps un peu, bah, comme tout le monde. Les dumps, en gros, c'est quand t'as une publication et en fait tu défiles et... comment expliquer? En fait, je fais une publication avec plusieurs photos sur la publication. Et du coup, bah, je fais grave ça en ce moment, bah, comme tout le monde en fait. Enfin, tout le monde fait ça actuellement. Ouais, en gros, c'est quand on fait une publication, on met tout et n'importe quoi. Voilà. C'est l'idée bah, de Dump, un peu, c'est de mettre toute ta vie, genre des trucs inutiles, genre un chat, moi en pyjama un peu. Enfin voilà. J'essaie d'être quand même assez fraîche sur mes photos, moi perso. J'ai une story à la une, par exemple, Mi, où j'aurais que ma tête, c'est très narcissique. Bah, comme tout le monde un peu. J'ai une story à la une, Révolution. Justement, parce que bah, c'est tous mes publications concernant les engagements, tout ça. J'ai une story à la une, voyage. Je crois que c'est tout, hein, il me semble. J'ai Instagram, Snapchat, TikTok depuis peu, parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'étais une anti-TikTok. Mariam, Aïna, Safia, vous pouvez le confirmer, j'avais jamais les refs. Mais en fait, j'ai cédé. Et est-ce que je passe souvent du temps sur mon téléphone? Je dirais entre 4 heures max par jour, en réalité. En vrai, je pense que les réseaux sociaux permettent de créer du lien social dans la vraie vie. Mais en eux-mêmes, intrinsèquement, je pense pas qu'ils soient très sociaux. Attendez, dans ma tête c'est clair, mais est-ce que j'ai mis des bons mots dessus? En gros, avec Instagram par exemple, je peux dire à Mariam, oh à Mariam et tout, viens on se voit boire un café. Donc en soi, cet échange il est pas social parce que bah, c'est du virtuel, mais par la suite, on va se voir boire un café, ce qui fait qu'on va créer du réseau, enfin on va créer du lien social. Ouais, je sais pas si c'est clair, mais... Personnellement, je suis une adepte du réel. C'est-à-dire que quand je suis avec une personne, je calcule pas du tout mon téléphone. Quitte à mettre des grands remis, ça peut énerver certains. Les remis, c'est... comment dire, bah, imagine que je suis avec toi, Rafik m'envoie un message, bah, je vais pas répondre à Rafik pendant les 4 heures où on va être ensemble. Et on appelle ça un remis. Remis de 4 heures. Voilà. Donc je mets beaucoup de remis. Et en fait, dans notre génération, en tout cas, mettre des remis, en tout cas quand tu parles avec un garçon, genre, en général, les garçons, ils aiment pas qu'on mette des remis. Et nous, les filles, on aime pas que les garçons nous mettent des remis. Parce que c'est comme s'ils nous calculaient pas. Vous voyez? Je crois que j'ai 1200 abonnés, un truc comme ça. Et moi, je suis à peu près 850 personnes, un truc comme ça. C'est beaucoup, beaucoup trop, mais c'est beaucoup. Voilà.
Tous les indicateurs sont au beau fixe concernant ce projet. Il faut savoir que les biens comme celui-ci partent comme des petits pains, alors ne tardez pas trop s'ils vous intéressent.
Oh, je veux mettre une option dessus.
Nous disons donc un bail standard pour un minimum de 6 mois, une seule personne, nous arrivons à... ce montant.
Et le loyer est à verser tous les combien?
Chaque semaine.
D'accord.
Cela dépasse un peu votre budget.
Oui.
Pas de panique. Nous avons une promotion pour les influenceurs les plus populaires.
Est-ce que je remplis les conditions?
Non, malheureusement. Pour cela, il vous faudrait une note de 4,5.
4,5? Et c'est tout bon?
C'est ça. Si vous l'atteignez, vous bénéficierez d'une remise de 20%.
4,5.
C'est bien ça.
Pour aller chez celle qui se fait appeler Louve, à Gagny, il faut prendre le RER quelques stations. Mais encore faut-il qu'il passe. La tante laisse le loisir de boire un café dans le bar du coin qui sent la javel et la bière. Les infos en continu défilent sur l'écran géant qui mange la moitié du mur. On annonce que la Corée du Nord va envoyer des militaires pour aider la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Louve fait une formation en informatique à l'école 42, une école fondée par Xavier Niel, milliardaire autodidacte et hétérodoxe. Du numérique, Louve veut en prendre le meilleur. Elle nous reçoit chez elle, avec ses chats, Simba et Doudou.
Eh ben, moi, c'est Louve, j'ai 25 ans. Je suis née à Montreuil dans le 93 et j'ai toujours vécu un peu dans cette région-là, entre Bondy et maintenant Gagny. Je suis née le 17 octobre 1999. Depuis un peu plus d'un an et demi, j'étudie à l'école 42, qui est une école de programmation. De temps en temps, je participe aussi bénévolement, à l'occurrence de quelques fois par mois, à la vie d'un refuge animalier proche de chez moi. Moi, j'ai fait des études d'art qui se sont pas très bien finies. J'avais l'impression de plus trop m'y retrouver et... je savais plus trop ce que je faisais là, ça me plaisait plus tellement en termes d'ambition professionnelle, même si j'ai toujours des loisirs maintenant artistiques et j'entretiens ce côté-là. Et mine de rien, on entend partout, et c'est vrai, que la programmation, les métiers du numérique, c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers qui recrutent et qui permettent de travailler dans beaucoup de pays différents. Moi, je sais pas si plus tard je vais vouloir rester en France ou si je vais avoir envie de partir à l'étranger. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui ont fait que je me suis tournée vers le numérique. Je dirais pas que c'est facile, parce que c'est des études qui sont quand même exigeantes et ça demande d'avoir beaucoup d'autodiscipline. Comme on n'a pas d'horaire, pas de professeur, pas d'obligation, c'est à soi-même de se mettre des obligations et d'y aller tous les jours et d'avancer dans nos projets. Ça demande de bien s'accrocher. Moi, j'ai grandi dans un milieu où j'ai tout vu changer. Donc, c'est-à-dire que j'ai connu les VHS, les DVD, puis après le dématérialisé. Pareil, chez moi, on avait plein de vinyles, puis plein de CD. Au final, maintenant, bah, plus personne s'en sert. Enfin, pareil pour les jeux vidéo. pendant très 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 longtemps, on a eu une PS1, et plus tard, on a eu d'autres choses. Enfin, j'ai vraiment vu les choses changer. Le premier ordinateur, on a dû l'avoir, j'avais 4-5 ans, donc j'ai un peu toujours vécu avec. Et en même temps, c'est quand même arrivé un tout petit peu après moi, quoi, dans ma famille en tout cas. Tout est en ligne. Je pense que ça permet de se mettre en contact avec des gens qui ont plus... Enfin, ça permet de facilement se mettre en contact avec des gens avec qui on peut avoir beaucoup en commun. Et ça, je pense que c'est un certain atout. Et c'est pas forcément mon cas, mais j'entends qu'il y ait des personnes qui se sentent mieux en ligne, qui se sentent plus en sécurité. Parce qu'il y a une espèce de barrière avec l'écran, au final. On est chez soi, on est en sécurité, et on a quand même accès un peu à tout l'extérieur et à plein de personnes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent beaucoup de choses sur Internet qu'elles ne feraient pas en vrai. Ça peut être bénéfique, comme ça peut être aussi tout à fait négatif, comme les personnes qui se permettent d'être des haters et de dire des choses très virulentes, très insultantes sur les réseaux sociaux, des choses qu'ils ne diraient certainement jamais à quelqu'un en face à face. Mais il y a cette espèce d'anonymisation et de sécurité qui fait qu'on sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu tout permis. Moi, j'ai plutôt vécu le positif, mais c'est aussi parce que je me protège vachement. Par exemple, sur Twitter, il y a beaucoup de choses que je bloque, que je regarde pas volontairement, parce que je pense que si on fait pas le tri et qu'on prend pas le temps de trier un peu ce qu'on regarde et de mettre des barrières, on peut se retrouver confronté à tout. On peut se retrouver face à beaucoup de violence, beaucoup de haine, on peut se retrouver... Moi, je pense à mes parents, par exemple, face à beaucoup de fake news, de choses un peu angoissantes. Et voilà, moi, j'essaye de me protéger de ça au maximum. Et à l'heure actuelle, l'évolution va plus vite que jamais. Et les attentes que j'ai, c'est peut-être d'un point de vue éthique. J'espère que les choses vont pas un peu nous sortir des mains. Parce que c'est vrai que avec l'intelligence artificielle, avec ce qu'on peut voir sur, par exemple, la Chine, où ils utilisent beaucoup la reconnaissance faciale, ou... Ça devient, on devient presque, entre guillemets, mais pas encore, c'est de la fiction, mais des êtres anthropomorphes. On nous parle parfois, bon, on en parlait déjà il y a 10 ans, des puces RFID sous la peau, de ce genre de choses, et on a de plus en plus de gadgets qui font qu'on embarque de la technologie avec nous tous les jours. Et j'espère juste que de ce côté-là, on saura s'y retrouver.
Jeune et brillant, monde déprimant. J'inspire les gens, les petits, les grands. J'suis belle, j'fais du make-up. J'suis geek, j'fais des World Cup. Malais, j'fais des lip-dubs. Balèze, j'fais du workout. J'veux la fame sans les responsabilités. La flemme, donc je fais de la quantité. Ça me peine quand dans les médias on parle de moi pour me dire combien je gagne dans le mois. Non, et je voudrais l'assertif. Mes idées viennent toute d'Amérique. Je lui explique mon taf, ma mère rit. Story à peine j'atterris. Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci.
L'OMS s'inquiète de l'emprise des réseaux sociaux sur les jeunes européens. Selon une large étude menée en 2022, 11% des adolescents montrent des signes d'utilisation problématique des réseaux sociaux. Ils étaient 7% 4 ans auparavant. Ils présentent des symptômes similaires à ceux de l'addiction. Incapacité à contrôler son utilisation excessive, sensation de manque, abandon d'autres activités au profit des médias sociaux et conséquences négatives d'une utilisation excessive dans la vie quotidienne.
Certes, il y a tous ces discours autour le numérique est dangereux, eux qui feraient n'importe quoi sur le web, et en même temps, là aussi il y a une contradiction, c'est-à-dire que eux, quand ils en parlent, ils évoquent beaucoup de plaisir, en fait, beaucoup de joie à s'informer, à partager, à essayer de comprendre ce monde-là qui est un monde à la fois complexe mais fascinant parce que complexe et complexe parce que fascinant. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et c'est vrai que cette notion de plaisir et de joie, en fait, qu'ils et elles ont à chercher l'information, à communiquer entre eux, à partager, à découvrir aussi. On parle peu de cela, mais la découverte de biens culturels. Combien d'entre elles et d'entre eux lisent et écrivent grâce au réseau social Wattpad ? combien d'entre elles et d'entre eux parlent de créateurs de contenu qui leur ont permis de mieux comprendre un élément du programme scolaire ou d'expliquer à leurs parents comment réaliser telle ou telle activité. Je crois que cette notion de plaisir et de partage, elle n'est pas assez mise en avant et elle est pourtant une grande caractéristique de cette génération qui cherche par tous les moyens à ne pas être trop triste dans la société qu'on lui propose. Pour certaines et certains d'entre eux, c'est sûr que leur activité en fait en ligne favorise l'intégration dans des communautés qui dépassent les frontières. Je pense notamment aux joueurs et joueuses de jeux vidéo qui évoquent des connexions à la fois techniques et sociales avec d'autres jeunes filles et jeunes garçons qui jouent aux jeux dans d'autres pays. Et ils racontent d'ailleurs les échanges parallèles, c'est-à-dire que oui, on se rassemble autour d'un jeu, autour d'un scénario de jeu, mais oui, on va aussi partir à la découverte les uns des autres. Ils se racontent comment se passe l'école dans leur pays, ils se racontent ce qui se passe dans leur pays, ils parlent aussi d'un certain nombre de sujets qui les intéressent en fonction du pays dans lequel ils se trouvent. Donc il y a quand même cette dimension d'ouverture qui est, en tout cas pour certains et certaines, favorisée par l'activité qu'elles ont. Après, l'ouverture culturelle, finalement, en ligne comme hors ligne, elle est très liée au milieu social et au possible qu'on nous permet d'avoir, quelle que soit finalement notre génération. Et là, c'est un enjeu aussi de justement leur permettre de mesurer à quel point il y a là un levier d'ascension culturelle et de découverte.
Alors le banc, c'est au bout. Hein. On va marcher tôt 2 minutes et ils sont là, ils sont déjà là.
Bah là, il va y avoir Mathis, Léo, Massimo et moi. Virgile, il viendra pas.
Donc Mathis, c'est celui qui est à Lille, qui fait des études, lui qui est dans le dessin, lui c'est un dessinateur avéré. Lui, il est dans l'animation 2D, 3D. Et lui, il voudrait travailler dans un studio. Je sais qu'il a essayé d'avoir un stage à Xilam, la société de café au Guil et Cafard, etc. Je crois, hein, mais après, peut-être je raconte des bêtises. Après, il y a Massimo. Aujourd'hui, il vend des imprimantes, mais c'est un commercial, lui. Puis c'est le musclé de la bande. Puis c'est dans le groupe, c'est celui que je connais depuis le plus longtemps, parce qu'on faisait du foot ensemble en 2009. Après, il y a Léo. Léo, c'est celui qui fait des études de cuisine à Ferrandi, qui a fait un stage à Vienne, en Autriche, qui a fait un stage à Reims aussi. Donc lui, il est dans des hautes sphères. Et puis on va pas se mentir, il a un certain talent pour ce qu'il fait. Il n'était pas du tout prédestiné à ça, parce que lui, il voulait faire du journalisme sportif. C'était un fan de basket à l'époque des Chicago Bulls. Bah, du coup, celui qui n'est pas là, il s'appelle Virgile. Lui, il est dans l'hôtellerie-restauration, plus dans le côté... gouvernance, etc. Lui, il rend des services, en fait.
Bonjour.
Et waouh, Cinco Sracluros.
Léo.
Ça va?
Ça fait longtemps.
Ça va quoi? Ça fait
des... Bonjour.
Ça fait des petits cassins du matin. Tu t'es bien habillé, mais c'est la radio hein, qui arrive. Hein.
Bonjour. Pardon.
Bonjour, Massimo. Bonjour.
Merci beaucoup.
Léo.
Enchanté.
Je m'appelle Iliès Jamlaoui. Je suis né le 19 octobre 2003 à l'hôpital Robert Debré du 19e arrondissement de Paris. Le premier truc qu'on m'a dit quand je suis né, c'est qu'on m'a dit que la série H avec Jamel Debbouze, elle avait été tournée là-bas. Donc j'avoue, fierté, j'étais content de l'apprendre. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'on me dit où je suis né, je dis 19e arrondissement, hôpital de Robert Debré. J'ai aucune idée de pourquoi je suis du 19e et pourquoi je suis pas de... Parce que ma mère est née à Nanterre, mon père à Bois-Colombes, donc on est tous quasiment du même endroit, mais moi je suis né à Paris. Donc je suis un vrai Parisien, mais supporter de l'OM, mais je sais pas s'il faut le dire ça. Je sais pas s'il faut le dire. Et bah, en ce moment, je suis à Dijon, donc juste à côté de Rueil-Malmaison. C'est quoi? C'est 4 heures de voiture. Je suis à Dijon et je fais un master de journalisme. Je suis en cours quasiment toutes les semaines, quoi. Pas tous les week-ends, mais je crois, en tout cas, un week-end sur deux, c'est ce qui était dit au départ. Je travaille pour le bien public en tant que secrétaire de rédaction, qui est l'équivalent. Du Parisien pour les bourguignons, quoi.
Comment est-ce que tu travailles avec l'intelligence artificielle? Visiblement, au bien public, il y a encore des secrétaires de rédaction.
Oui. J'avoue qu'on n'en a pas parlé depuis le début. Moi, à titre perso, pour rigoler ou pour des vidéos, pour des choses un peu liées au divertissement, j'ai déjà utilisé de l'intelligence artificielle, pardon, pour faire des pochettes d'albums, pour même faire des chansons et tout, On écrit des paroles et elle te fait le truc. Mais je pense que le métier de secrétaire de rédaction, au bout d'un moment, il va être voué à disparaître. En tout cas, de ce que je fais, pas à disparaître, parce que ça ne pourra jamais disparaître. Il y aura toujours besoin d'une personne humaine pour vérifier à la fin. Parce que le robot, c'est sympa, mais il ne peut pas avoir toutes les connaissances. Et surtout, il ne peut pas avoir les connaissances de quelqu'un qui est là depuis 25 ans. Quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui maquette des journaux depuis 25 ans, qui a le savoir sur le bout des doigts. Ça, ce sera irrémédiable. La personne sera toujours là, je pense, hein. Mais l'intelligence artificielle viendra d'abord conjuguer le travail des gens pour les aider. Mais vu la situation de l'après, je pense que dès qu'il y aura une possibilité de mettre des IA dans différents aspects, ils le mettront tout de suite pour éviter de payer les gens. Parce que ce sera toujours moins cher de payer une IA que de payer quelqu'un.
Est-ce que ça te fait peur, ça ?
Moi, non. Le journaliste qui fait le journal de 8h20, je vois pas une IA. Faudrait vraiment que ça soit ultra poussé. Là, au stade où on est actuel, c'est choquant parce que c'est venu tout de suite, en fait. En 2019, on parlait pas de l'IA. Même en 2020. Là, c'est venu tout de suite. Ah ouais, l'IA, elle peut faire des deepfakes, l'IA peut remplacer la voix, l'IA, elle peut faire des ChatGPT, tout ça. C'est venu d'un coup. Du coup, les gens, ils ont été un peu choqués. Un deepfake, c'est quand une intelligence artificielle fait en sorte qu'une personne humaine parle alors qu'elle n'a jamais dit de tels propos de toute sa vie. En gros, c'est comme si vous avez un discours de François Hollande qui existe vraiment, que vous avez vu peut-être à la télé ou que vous avez écouté. Et en gros, le robot va capter les sonorités de la voix de François Hollande, va capter les mouvements de visage, des lèvres, des joues et même du corps s'il est derrière un pupitre, et avec toutes ces données-là va lui faire un discours, je sais pas moi, sur le 4-3-3 de Didier Deschamps, alors que bah, de base, il parlait de géopolitique avec Erdogan, par exemple. Et un deepfake, c'est fait pour faire dire des choses à des personnes, des choses qu'elles n'ont jamais dites, en fait. Et c'est beaucoup plus utilisé de manière à dénigrer quelqu'un ou pour faire des campagnes de dénigrement, pour notamment politique, que pour le divertissement, parce que de base, c'était le divertissement.
C'est fou, l'intelligence artificielle, hein, Parce que demande à Werenoi.
Il faut le dire qu'on l'a fait une fois, ça.
Ouais, on a fait un classique.
On avait fait un son il y a été 2021 et on l'a réécrit en IA et il nous a donné une version qui est meilleure que la nôtre.
Meilleure que ce que vous avez fait.
Voilà. Là, il commence comment notre son là ?
Bon. Il faut écrire les paroles, après tu les rentres dans Suno.
Donc on va sur le site suno.com.
Ouais, ok, on arrive. Ça fait le cas dans le resto déjà ?
Alors déjà, est-ce qu'avant même de trouver les paroles, on définirait pas le style de musique qu'on veut ?
Eurodance, t'as dit, c'est bien.
Ouais. Eurodance ?
Déjà, tu mets les mots-clés et après t'en fais des phrases.
Mais rendez-vous 21h.
Ilyes.
Ilyes.
Aniv Ilyes. Fondue.
Est-ce qu'on peut parler aussi de, genre, à la base, si on a failli ne pas aller au resto parce qu'on n'avait pas réservé ? Parler de ça aussi,
oui, bah, oublie de réservation.
Oublie de réservation.
Ah, non, mais il faut que ça rime.
Je sais pas, mais on fera rimer ça après. Ah,
donc, attends, Virgile Retard.
J'ai fait rimer 90s avec 90s.
Oublie de réservation.
Grand chose. Virgile Retard.
Fondu. Serveur problématique.
Serveur problématique.
On peut mettre 20
oublie de réservation. Oublie de
condamné.
Massimo 26 fois aux toilettes en une soirée.
Massimo, ouais. Petite vessie.
Attente. Dans l'arc.
Devant la boîte. Devant l'arc.
La boulangerie. Devant la boulangerie.
Oui, j'étais devant l'arc.
Fini au bord.
Arrivage devant l'arc.
Dilemme,
boîte de nuit ou...
Boîte de nuit ou...
Boîte ou banc.
Boîte ou banc.
Boîte ou banc.
N53.
Je pense au mec qui est à Quimper, il écoute ça.
Moi aussi...
De N53, de...
Moi aussi Saint-Georges à la bouteille.
Bussy Saint-Georges.
Saint-Georges au boulot.
Nuit Saint-Georges.
Nuit Saint-Georges au boulot.
RER A, terminus.
Au goulot, au goulot. 4h du SBAH.
SBAH.
Ah, c'est la mauvaise version, celle-là.
Moi je vais écouter le refrain. Et en 2 minutes, il a éteint notre carrière.
On est sur YouTube là.
On quitte Ray Malmaison.
Nouveauté,
sous la brébuche, une publicité interroge. Vous voulez paraître plus jeune que votre âge ? Une autre joue la carte pédagogique. C'est la fin du ticket de métro papier, passé au titre de transport sur téléphone. À côté, des traces d'affiches relatives aux élections passées survivent difficilement. En 1925, la publicité Bébé Cadom qui fait la peau douce comme une peau de bébé faisait son apparition. 100 ans plus tard, c'est le retour du savon solide pour des questions environnementales. Un match de gala pour Octobre Rose, le mois de la mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, est annoncé. Au loin, le cirque Achille Zavata incite les familles à venir voir son tout nouveau spectacle avec les personnages de Pat Patrouille. Le temps est gris, les températures oscillent entre 12 et 19 degrés, 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. Direction Bordeaux, pour retrouver autour d'un thé, Agathe, Lila et Sofiane.
C'est bon ? Ça arrive sur le mat. Oui ! Lila. Donc c'est Lila, c'est ma meilleure amie. On s'est rencontrés en droit, en première année. On était dans les mêmes TD. Et du coup, après, notre amitié s'est consolidée avec les années qui sont passées. Aujourd'hui, on continue à se voir presque toutes les semaines. Quand les temps sont bons, on se voit toutes les semaines. Mais au moins une fois toutes les semaines, une fois tous les mois. Et donc là, elle est en master contrat d'affaires. Elle finit son alternance en décembre. Après, elle va faire un stage de 6 mois chez Ricard. Préparer le barreau à Paris. Qu'elle va avoir, je suis sûre, je lui fais confiance.
On n'est pas la pression.
Je l'encourage. Et voilà, elle aime beaucoup les activités manuelles. Elle aime faire du crochet. Elle aime faire des puzzles. Elle aime beaucoup lire aussi, comme moi. On s'échange souvent des livres. Et puis voilà.
C'est Agathe, ma meilleure amie. Ça va, je retourne le compliment.
Imagine.
Et du coup, Agathe a fini son master 2 en droit notarial et recherche son alternance pour commencer le diplôme supérieur du notariat en janvier. Et je suis sûre qu'elle va trouver, même si c'est un peu galère en ce moment, pour les notaires. Mais voilà, je n'ai aucun doute qu'elle va finir notaire et que je lui confierai mon testament et mon contrat de mariage. Elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup dessiner, nouvelle passion récente.
Coloriage, je n'ai même pas de talent.
Mais si.
Je colérie juste dans les lignes. Tu peux lire, Sofiane.
Ouais,
je vous entends
parler.
Moi, j'ai des parents, c'est des apprentis influenceurs. Ils sont très à l'aise. Ils adorent ça. Ma mère, elle a Instagram, elle fait des stories Insta. Elle publie sur tous les réseaux. Elle regarde TikTok, elle m'envoie des TikTok rigolos qu'elle voit. Mon père, il a Snap, il m'envoie des Snap, voilà. Donc non, ils sont très à l'aise avec ça, mes parents. Et franchement, je m'en plains pas, parce que quand je vois Lila, comment elle galère avec sa mère des fois, je suis très contente qu'il soit autonome. Il faut dire que la mère de Lila lui envoie des messages pour qu'elle fasse des recherches internet.
Ouais, on est quand même sur ce stade d'assistante technologique. Donc oui, moi j'ai vraiment l'impression de participer... à ça, et bon, pareil avec mon grand-père, mais dans une moindre mesure. Mais du coup, je coach ma mère pour qu'elle coach mon grand-père. C'est vraiment la chaîne de transmission. C'est des situations un peu ubuesques des fois. Lila, est-ce que tu peux regarder où est la boutique Orange la plus proche de chez ton grand-père pour que je lui change son téléphone? Wow.
C'est un peu notre rôle de maintenir nos parents.
Oui, voilà, je pense.
Mais moi, elle est réfractaire.
Ouais, mais je pense que, enfin, moi, quand je vois ma grand-mère qui, du coup, je la vois pas souvent, donc je l'ai pas trop montré tout ça, même si je pense qu'elle pourrait s'y intéresser, elle a l'air assez ouverte à ce niveau-là. Mais du coup, elle regarde BFM en boucle et elle s'informe que par ça. Et en fait, il y a plein de moyens de s'informer. Je pense qu'elle pourrait découvrir des choses comme ça via, du coup, les nouvelles technologies, tout ça. Mais c'est un peu à nous de leur enseigner ça. C'est notre mission.
Mais je pense, alors je sais pas pour tous les parents, mais moi je sais que du coup, elle a une vision vraiment diabolisée de la technologie. Et pour elle, c'est limite à cause de la technologie que tout part en cacahuète dans le monde.
Alors que tu vois, par exemple... Par exemple, ma mère trouvait que voilà, faire des selfies et tout, c'était un peu ridicule et tout. Et il y a pas longtemps, je lui ai fait installer Biril et elle loupe aucun Biril, elle adore ça. Non mais c'est rigolo, enfin, parce qu'en fait, c'est une photo de toi que tu prends tous les jours, à n'importe quel moment. Et du coup, elle adore ça, elle les fait tout le temps au travail, à la maison. Enfin... Et je pense qu'elle a changé un peu sa vision, qu'il y a des réseaux aussi qui sont sympas, tu partages des moments avec tes amis, quoi.
Oui, mais c'est paradoxal, parce que moi, quand j'étais en Angleterre et qu'on pouvait faire des fast-time, elle était quand même bien, bien contente de pouvoir me voir à travers son téléphone.
Ouais.
Donc,
c'est à nous de leur montrer qu'il n'y a pas que des côtés négatifs.
C'est quoi, à votre avis, la différence entre la fracture générationnelle et la nostalgie du passé?
On a un temps de réflexion.
On avait 4
ans. En vrai, le truc de nostalgie du passé, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens de notre génération qui l'ont et qui fantasment et, enfin, vraiment les années 80, les années 70. On était libre de faire ce qu'on voulait, chacun avait sa place. Et après, la fracture générationnelle, en fait, c'est juste un fait qu'on sent avec nos grands-parents. Par exemple, moi, je sens la vraie fracture. Mon papy, il a bientôt 85 ans. Ma mamie, elle a 81. Et là, on sent la fracture générationnelle, mais en fait, sur des trucs tout bêtes, les téléphones, l'ordinateur, écouter la radio sur une enceinte Bluetooth, tu vois, c'est des trucs... t'as la fracture, mais en fait, c'est des trucs bêtes, c'est juste que ben, ça les dépasse parce qu'ils n'ont pas grandi avec. Alors que la nostalgie du passé, en fait, tout le monde peut l'avoir, on dirait. Ce qui est hyper bizarre, parce que notre génération, en fait, on n'a pas connu ces années-là et elles sont un peu trop racontées, fantasmées à mon goût, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette rupture générationnelle, eux, ne la souhaitent pas. Et que ces jeunes, adolescents, jeunes adultes, racontent beaucoup de moments où ils vont, eux, vers leurs parents, vers les plus âgés, pour leur montrer des fonctionnalités. Beaucoup, par exemple, ont aidé les parents à paramétrer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Cette génération dite « digital natives », c'est la génération qui a vraiment mis en place un processus de rétro-socialisation, c'est-à-dire qui a elle-même pris en charge, finalement, les apprentissages destinés à ses parents sur les réseaux sociaux numériques. Le jazz, c'était mieux avant. Les voitures, c'était mieux avant. Les jeunes, c'était mieux avant. Les clips, c'était mieux avant. Les disques, c'était mieux avant. Les animaux, c'était mieux avant. La poste, c'était mieux avant. Les communistes. La scoliose, c'était mieux avant. Noël, c'était mieux avant. Nos corps, c'était mieux avant. Mon cul, c'était mieux avant. L'air, c'était mieux avant. Et l'océan, c'était mieux avant. La pub, c'était mieux avant. Les pépitos, les ampoules.
Merci à Aïna, Sarah, Mariam, Safia, Iliès, Léo, Massimo, Mathis, Andrea, Loua, Elisa, Agathe, Sofiane, Lila, Audric, Maëva, Loana et Louve. Et le premier bébé de l'an 2000, Nicolas. Merci à Anne Cordier, sociologue. Merci à Judith Meyer, enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Sorbonne Paris-Nord, ainsi qu'à Karina Bellassène, directrice de l'espace Georges Turin d'Arc la Bataille. Lecture, Daniel Königsberg. Prise de son, Hélène Langlois, Laurent César, Stéphane Foulon, Hervé Dubreuil. Mixage, Manon Houssin. Archivina, Delphine André. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Les enfants du nouveau millénaire, premier épisode, Agathe, Iliès, Loana et tous les autres. Un documentaire de Léa Capuano, réalisé par Rafik Zenin. Mais tout